Archivif. Un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de notre magazine Archivif en partenariat avec le conseil départemental de l'Ardèche et pas que, autour de ces 07 merveilles de l'Ardèche qui n'en finissent pas de nous émerveiller. Justement, prochain rendez-vous, ce sera ce 28 septembre du côté du château de Rochemort dès 11h et jusqu'à 17h. On pourra plonger dans l'univers des pratiques sportives d'antan, mais aussi d'aujourd'hui, avec en parallèle des visites guidées vous permettant de découvrir l'architecture, l'histoire et le rôle qu'a joué le château de Rochemort au fil des siècles. Un rendez-vous qui va allier à merveille, comme toujours, avec les 07 merveilles de l'Ardèche, le patrimoine, le sport et les découvertes. On va en parler aujourd'hui avec nos nombreux invités. Autour de la table, nous retrouvons Gilles Martinez. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Académie des arts martiaux historiques de Rochemort. On va découvrir tout ce que sont ces arts martiaux historiques et puis ce que vous allez proposer ce 28 septembre. À vos côtés, Pauline Guillemin. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes médiatrice à l'Office de tourisme Porte Sud Ardèche. L'incontournable de ces émissions archivif, il est là. C'est le pilier, c'est le roc, c'est la péninsule de ces émissions. Il s'agit d'Enzo Roux, chargé de mission 07 Merveilles de l'Ardèche. Bonjour Enzo.
Bonjour à tous. Bonjour Vincent.
On retrouve également autour de la table Anne-Dominique Blanc. Bonjour Anne-Dominique.
Bonjour.
Merci également de votre présence. Vous êtes adjointe en charge des solidarités, de la vie associative, du tourisme et de l'économie à la commune de Rochemort. Et puis, elle aussi, elle est souvent dans nos émissions archivifs. Elle représente les archives départementales de l'Ardèche, où elle est conservatrice déléguée aux antiquités et objets d'art. Il s'agit d'Aude Poinceau. Bonjour Aude.
Bonjour.
Merci donc à tous de venir nous parler de ce rendez-vous du 28 septembre. D'ailleurs, on va commencer avec vous, Aude, puisque je crois savoir que vous avez, comme souvent, tiré des archives une petite mise en contexte autour de ce château de Rochemort.
Alors oui, on a quelques trésors aux archives départementales. Et là, nous avons trouvé une archive dans la série L, qui concerne effectivement le fleuve Rhône, dont on sait qu'il passe juste à côté de Rochemort. Donc le château de Rochemort, qui domine la vallée du Rhône, et depuis sa position de choix, il est un point en fait stratégique du contrôle du fleuve, qui doit passer les marchandises et aussi les individus. En temps de péril, en fait, cette position stratégique peut devenir précaire et entraîner des mesures très fortes. C'est le cas pendant la Révolution française, où Rochemort constitue un point d'entrée majeur dans le département. Alors que le territoire est agité de troubles majeurs, le site de Rochemort est l'objet d'un contrôle accru. Et aux environs d'octobre 1798, le département de l'Ardèche décide de réglementer fermement la navigation sur le fleuve, justement. L'archive que je vais vous lire ne concerne pas directement Rochemort, mais effectivement le passage qui a lieu entre la Drôme et l'Ardèche. Par mesure de sûreté générale, il est interdit provisoirement à tout particulier propriétaire de barque de traverser ce jour, de jour ou de nuit le fleuve Rhône afin d'ôter aux brigands, assassins et dévastateurs qui désolent ce département les moyens d'invasion et de retraite que leur offrent les dites barques. Considérant qu'il est aujourd'hui bien reconnu que les individus qui composent la majeure partie de ces hordes de brigands sont des étranges restés éparses de cette bande atroce qui s'empara du pont Saint-Esprit. Considérant que ces bandits, profitant de l'obscurité de la nuit, s'introduisent clandestinement soit dans ce département, soit dans celui de la Drôme, par le moyen des dites barques, qu'ils sont aidés dans ces différentes traversées par des bateliers qui, sous un honteux appât d'argent, ne rougissent pas de devenir ainsi les complices de ces vils scélérats. Il est du devoir des administrateurs de faire usage de toutes les mesures de haute police et de sûreté générale pour parvenir à déjouer les sinistres projets des implacables ennemis de la République et du gouvernement. Donc largement suspectés, les bateliers sont eux aussi durement contrôlés. Et à l'article 3 du même document des archives, on apprend que les entrepreneurs et employés des bacs à trail continueront néanmoins leur service ordinaire, mais ne pourront sous aucun prétexte faire la traversée de nuit, si ce n'est pour le service des courriers ordinaires ou des dépêches des agents civils, militaires et de la gendarmerie nationale, si le besoin du service l'exige. Donc on voit qu'il y avait vraiment un contrôle accru pendant cette période de la Révolution sur le Rhône entre Rochemort et la Drôme.
un point stratégique pour entrer sur nos territoires. Et comme vous l'avez si bien évoqué avec cette archive, Aude Poinceau, c'est vrai que c'était vraiment un point de vigilance pour les autorités. Je me tourne vers vous, Pauline Guillemin, pour l'Office de tourisme Porte Sud Ardèche. Qu'est-ce qu'on sait de ce château et de son histoire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en garder de façon synthétique et marquante?
Alors, le château de Rochemort, en fait, c'est très bien illustré aussi dans l'archive que Claude a mentionné. En fait, c'est effectivement un point stratégique. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir le donjon hein, sur ce promontoire basaltique, est très très visible depuis la D86. Eh bien, ce donjon, il a été construit par les Adhémars de Monteil pour contrôler justement le Rhône et pour y établir un péage dès le XIIe siècle. Donc on voit bien que là, l'histoire rebondit, en fait, entre l'époque du Moyen-Âge et l'époque de la Révolution, avec ce point stratégique qui a été édifié donc, dès l'époque médiévale par cette famille des Adhémars de Monteil, qui est d'ailleurs donc, la famille qui se trouve à l'origine à Montélimar. Et donc voilà, c'était un point de passage, en fait, ce château de Rochemort. Ce que l'on voit actuellement, donc depuis la D86, c'est ce donjon perché sur le promontoire basaltique. Et à côté, on voit le logis aussi seigneurial et le bourg castral. Donc tout ça, ça forme en fait le castrum de Rochemort, qui a bien sûr évolué au fil des siècles. Ce qui est assez beau et à découvrir, en fait, quand on va au château de Rochemort, donc on ne va pas visiter un château avec des meubles, etc., mais on visite des vestiges qui ont traversé donc, le XIIe, XIIIe, jusqu'au XVIe siècle, pour la partie vraiment logis. Et on traverse comme ça les époques. On a aussi donc la chance d'avoir son ensemble castrum, c'est-à-dire à la fois le bourg castral, qui a été fortement remanié hein, aujourd'hui quand on le traverse, c'est avec des maisons contemporaines, entre guillemets, mais voilà, du XXe siècle, qu'on traverse. Et ensuite, on accède vraiment au centre du château et on se retrouve au pied du donjon, au pied de cette tour basaltique sur laquelle a été construit le donjon.
Avec près de 800 ans d'histoire qui nous contemple depuis ces hauteurs. De votre côté, Anne-Dominique Blanc, je le rappelle, vous êtes adjointe en charge des solidarités, de la vie associative, du tourisme et de l'économie à la commune de Rochemort. De votre côté, quand on doit, en tant que commune, gérer un château, une gestion communale, comment ça se passe?
Alors, je dirais que c'est à la fois une fierté et une responsabilité, parce que comme vous l'avez évoqué, c'est toute une histoire qui est derrière nous et on doit continuer à s'inscrire dans cette histoire du château. Donc la mission des élus et de la commune, c'est de préserver ce patrimoine, d'essayer qu'il ne se dégrade pas, de le sécuriser. C'est vraiment l'enjeu premier pour les élus. Et ensuite, c'est de faire tout ce qu'on peut pour le valoriser. On ne reconstruira jamais, comme disait Pauline, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas beaucoup de murs. Voilà, ça, on n'arrivera pas tout de suite à lui redonner sa forme initiale. Mais par contre, on doit poursuivre cet héritage, l'entretenir et puis le faire connaître aussi, puisque on découvre souvent que certains habitants ne sont jamais rentrés au sein du château. Et justement, la journée dont on va parler est une occasion un peu unique et exceptionnelle de donner aussi une autre vie au château.
Ça représente beaucoup, peut-être pour une commune comme Rochemort, l'entretien et la gestion de ce château, sans parler de le restaurer complètement.
C'est le souci de tous les élus depuis des années. Je regarde Gilles qui sourit puisqu'il connaît bien. C'est vraiment une préoccupation. On a l'impression de faire des petites gouttes d'eau chaque mandat. Bon, consolider les remparts, sécuriser certains murs. Là, il va falloir retravailler l'ouverture du donjon puisqu'il a été fermé à cause de problèmes de sécurité. Voilà, donc ça, c'est la prochaine étape, le prochain enjeu. Voilà, donc c'est ça. on hérite d'un passé, mais ça s'inscrit dans l'histoire, quoi. Et nous aussi, la rénovation du château, elle s'inscrit aussi dans un futur qui est lent. Et qui, voilà, c'est du temps long, ouais. On résonne en temps long.
Alors, pour le valoriser, justement, il y a un nouveau parcours de visite guidée qui est inauguré cette année. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, bien sûr. Nous, en tant qu'office de tourisme, on s'occupe de tout ce qui va être entrée des visiteurs, donc gestion de l'accueil, visite libre, visite guidée sur le site, principalement en juillet-août. On espère un jour peut-être étendre un peu la période d'ouverture du château, mais voilà, pour l'instant, c'est juillet-août. Et donc, c'est vrai qu'à l'origine, quand on rentre dans le château, il faut être plutôt accompagné d'une visite guidée pour un peu plus comprendre et percevoir son histoire. Même si la vue là-haut est incroyable, on avait quand même pas mal de retours de gens qui en voulaient plus, en fait. Et donc, ce nouveau parcours d'interprétation, donc ces 12 panneaux qui sont répartis sur le site du château de Rochemort, permettent en fait à tout le monde de comprendre pourquoi le château est installé ici, comment, qui... Donc les différents seigneurs, enfin les principaux seigneurs qui ont œuvré à l'histoire de ce monument. Et puis avec ce parcours d'interprétation et ce contenu, il y a toujours des petites manipulations, quelque chose de ludique, d'interactif avec le visiteur pour vraiment l'inciter et le maintenir un peu en état d'attention en fait dans le parcours de visite. Donc ce parcours, il a été travaillé en 2024 et il a été inauguré le 12 avril de 2025 avec des animations aussi, un château ouvert et pas mal. On a eu 190 visiteurs pour cette journée, donc on était très contents. Et donc voilà, faut venir au château pour le découvrir et puis en profiter.
On pourra profiter de cette visite et de ce nouveau parcours, notamment le 28 septembre.
Tout à fait.
Lors de cette journée, une journée au cours de laquelle on va pouvoir plonger dans les pratiques sportives d'antan. Et je me tourne vers vous, on ne vous a pas entendu encore, Gilles Martinez. Vous êtes membre de l'Académie des arts martiaux historiques de Rochemort. Qu'est-ce que c'est que les arts martiaux historiques ? Que sont-ils ?
Alors, les arts martiaux historiques européens ou les AMHE, ce sont un ensemble de pratiques qui traite des techniques de combat historiques. Ça commence tôt dans l'Antiquité, en fait, les premières traces d'affrontements, d'opposition, et ça va jusqu'à la fin de l'histoire communément admise. Alors généralement, les pratiquants s'arrêtent au moment de la guerre de 14, avec du combat à la baïonnette ou ce genre de choses. Donc ça couvre énormément de disciplines martiales occidentales. Et donc, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, époque moderne ou le début de l'époque contemporaine.
Donc dans votre association, vous êtes très polyvalent. Vous allez du pugilat au combat à la baïonnette.
L'ensemble des pratiques ne sont pas pratiquées dans chacune des associations qui pratiquent les arts martiaux historiques européens. Alors il y a une fédération qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et la pratique des AMHE, ça fait une grosse vingtaine d'années, 25 ans, que ça voit le jour, que ça s'étend, ça se redécouvre. Et donc dans l'association de Rochemort, on est plutôt spécialisé sur à peu près la même période que le château. C'est pas complètement un hasard, mais c'est aussi lié à mes études, moi, d'histoire et mon doctorat. Je suis docteur en histoire médiévale, et avec l'évolution un peu ces dernières années de mes activités, je travaille aussi sur l'époque de la Renaissance. Donc à l'association de Rochemort, on pratique de l'escrime de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance.
Qu'est-ce qui change entre l'escrime de la fin du Moyen-Âge et celle qu'on connaît aujourd'hui aux Jeux Olympiques, par exemple ?
Beaucoup de choses. Les armes, tout d'abord, qui sont assez différentes. À Rochemort, par exemple, on pratique du combat à l'épée au bouclier ou du combat à l'épée à deux mains, l'épée longue. Mais même pour la pratique de l'époque Renaissance avec la rapière, on a en plus d'armes qui sont différentes, on va avoir des règles qui sont différentes, des contextes d'affrontement qui sont différents. Donc il y a pas mal de choses qui changent, les attitudes, les postures. Un exemple qui revient souvent dans les différences entre le sport moderne et l'escrime historique, c'est que dans le sport moderne, il faut toucher avant l'autre, alors que dans le sport historique, il faut toucher seul. Ça implique avant l'autre, mais ça implique de maintenir l'action plus longtemps où on ne risque pas de prendre une riposte, un coup d'après, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les règles historiques.
Historiquement, lors de ces affrontements-là, souvent les deux participants, les deux combattants, étaient blessés, finalement. C'est peut-être pour ça que vous avez adapté les règles.
Alors oui, dans l'application pratique, dans le cadre d'un duel sérieux, il y a ce risque de blessure et de mort qui a donné naissance en fait aux règles historiques de conserver la vie. Mais déjà à l'époque, en fait, ces règles étaient appliquées parce que toutes les formes d'escrime de l'époque ne sont pas des escrimes sérieuses. Il y a déjà des escrimes de jeu, et dans les escrimes de jeu de l'époque, on tient compte de ce risque de blessure si on passe de l'escrime de jeu à l'escrime sérieuse, justement.
Avec votre association, vous intervenez auprès des scolaires. Alors j'imagine nos petites têtes blondes avec des épées et des boucliers, ils doivent se régaler, et je suis sûr que même vous, en tant qu'organisateur de tout ça, il y a une petite replongée en enfance aussi, pas seulement à travers l'histoire, mais aussi à travers le jeu, justement, le côté ludique.
Et, il y a forcément, oui, quelque chose qui touche aux passions de l'enfance, mais effectivement, c'est très valorisant, et c'est une fierté de pouvoir faire d'autres activités que celles qui ont été réglementées par les traditions olympiques, on va dire, et de faire découvrir d'autres activités sportives à des enfants, et puis des activités sportives qui ont aussi un gros lien avec la culture, puisqu'on parle culture, histoire, patrimoine lors de ces activités. Et justement, à Rochemaure, ça va être l'occasion en particulier de mettre le lien avec l'histoire du château. Donc ça, c'est toujours quelque chose de très positif, je pense.
Le fond et la forme à la fois.
Exactement.
Alors on marque une petite pause musicale dans ce magazine Archivif et on se retrouve pour continuer à parler de ce rendez-vous du 28 septembre.
And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, "Oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had?" Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who, before he was 10, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he would be a fearless warrior, Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger, till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. There was a young girl whose heart was a frown, 'cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop.
Castle Made of Sand, un château de sable, c'était Jimi Hendrix dans votre magazine Archivif pour cette petite respiration musicale. Château de sable, ce n'est pas le cas du château de Rochemaure qui continue de nous intéresser. On retrouve autour de la table tous nos invités, toutes nos invitées également, pour évoquer cet événement du 28 septembre prochain. Justement, Enzo Roux, pour le département de l'Ardèche, vous êtes chargé de mission 07 Merveille. Le programme de cette sixième date va être pour le moins sportif.
Exactement, on en est très fiers. Après avoir parcouru différents champs du spectacle vivant, du théâtre, de la musique, des concerts, on change un peu de cap pour cette avant-dernière date du cycle 2025 avec du sport, avec différentes structures qui vont venir rythmer la journée du 28 au château pour visiter, découvrir ce château avec un nouveau regard. Bien sûr, toutes les informations seront disponibles sur le site du département ardèche.fr/07merveilles. Les visites guidées à retrouver sur le site de l'Office de tourisme avec les différents horaires, les modalités d'inscription, les tarifs. Et bien sûr, ces différentes structures qui vont s'enchaîner. Je laisse peut-être la parole à Anne-Dominique qui a un peu plus de contact avec eux. On m'a parlé de pétanque, on m'a parlé
des archers aussi, des danses médiévales également, Anne-Dominique.
Il y a plusieurs activités prévues, donc la MHE bien sûr. Toutes les heures, Pauline fera une visite flash du château pour faire en un quart d'heure.
Entre midi et 16h, le dernier départ, ce sera une visite d'un quart d'heure du château. Puis comme ça permettra, ça me permettra de disperser les gens derrière pour les inviter et les inciter à aller découvrir d'autres activités.
Voilà, donc les autres activités qui sont prévues, on aura le club d'aïkido avec les arts martiaux actuels plutôt,
pour voir
asiatiques, voilà. On a les archers d'Ancône qui feront aussi des initiations. Et puis, comme on était dans la période médiévale, on réfléchissait et c'est vrai qu'on a pensé tournoi. Et bon, quel type de tournoi? Et c'est là qu'on a eu l'idée d'inviter quelqu'un de Rochemort qui développe la mini pétanque sur table. Un sport accessible à tous et qui va organiser un mini tournoi avec des triplettes, donc inscription au moment de l'ouverture du château et ensuite la compétition tout l'après-midi.
Je me tourne à nouveau vers vous, Gilles Martinez, pour l'Académie des arts martiaux historiques de Rochemort. Quand on pratique comme ça les arts martiaux historiques et qu'on a la chance d'aller sur un site patrimonial comme celui-ci, on peut dire que la boucle est bouclée. J'imagine que pour tous les participants, ça va être une vraie plongée dans le passé.
Exactement. Alors, en plus, ça fait partie vraiment des missions de l'association. Il y a, dans la pratique générale des arts martiaux historiques européens, il y a en gros deux finalités. Les personnes qui vont faire de la compétition et les personnes qui vont plutôt se tourner vers la mise en valeur du patrimoine. Et c'est là-dessus, en fait, que notre association intervient plutôt. Là aussi, il y a encore le lien avec le château de Rochemort. Hein, la salle d'entraînement, elle est au pied du château. Donc on le voit quand on s'entraîne, ça pousse en fait à aller dans ce type de lieu. Et donc, on s'est petit à petit spécialisé vers la médiation culturelle au moyen de l'escrime et des arts martiaux historiques.
Récemment, une question peut-être qui n'a rien à voir, mais plus de la culture générale en ce moment en France. Il y a eu beaucoup de films qui ont mis en valeur justement, alors, je pense au Comte de Monte Cristo, je pense à la série des Trois Mousquetaires, etc. On revoit cette tradition de cap et d'épée qui revient un petit peu aussi cinéma et dans l'imaginaire collectif chez les Français. Est-ce que chez vous, ça a suscité un regain d'intérêt pour votre association et une augmentation des pratiquants ?
Alors, c'est très difficile de répondre à ça. Bien sûr, toutes les activités culturelles autour de l'escrime, que ce soit les films, les fêtes médiévales, tout ça, c'est positif. Depuis le post-Covid, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui influence quoi. Mais l'association de Rochemort, compte tenu qu'on est placé quand même dans une petite ville, elle se porte plutôt bien. Mais bien sûr, on recrute. On a développé aussi ces dernières années les activités vers les enfants. Au départ, l'association était tournée uniquement sur les adultes. Et depuis quelques années, on développe les activités sur les enfants. Et puis, voilà, on essaye de compléter nos activités, de s'étendre un petit peu. On a une antenne à Viviers maintenant. Et l'année prochaine, il y aura une antenne à Valence qui va s'ouvrir. Donc pour pratiquer plus largement les arts martiaux historiques européens.
Vous avez, j'imagine, un site internet qu'on peut consulter ?
Oui, il est sur Jimdo, c'est academieamhe.jimdo. Et on peut retrouver les activités de l'association.
Enzo Roux, pour le département de l'Ardèche, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, après avoir fait de la musique, après avoir fait d'autres disciplines, cette fois-ci c'est vraiment le sport à proprement parler qui est mis en avant sur ce nouveau rendez-vous des 07 Merveilles. Comment avez-vous eu cette idée ?
Alors ça part d'une idée un peu folle du service des sports. Je vous redirige en replay vers le premier podcast où on recevait le chef de service sport du département, Nicolas Dupuis, qui nous expliquait aussi tous ces liens qu'on pouvait trouver entre la culture, le sport et quels enjeux se cachaient derrière. Il y avait aussi cette idée de sortir du cadre classique, les concerts, les théâtres, on en a beaucoup vu. Je vous redirige aussi vers les différents podcasts qu'on a pu faire cette saison. Et puis l'entrée sport, pourquoi pas, une nouvelle entrée, quand des personnes sont peut-être un peu plus éloignées de la culture, ont plus de mal à rentrer dans un concert, rentrer dans le théâtre, pourquoi pas les faire rentrer par le sport, qui des fois peut paraître plus populaire qu'un concert de musique classique. Et j'ajoute également qu'on pourra cette année mener une action scolaire avec toutes les écoles de Rochemort, notamment grâce à notre partenaire, le fonds de dotation Abbaye de Lubila, que je remercie encore une fois pour leur accompagnement. Et donc c'est toutes les écoles de la petite section au CM2 de Rochemort qui vont pouvoir bénéficier d'une médiation, d'initiation à cette escrime médiévale et d'une journée au château, d'une journée de découverte au château qui, j'espère, pourra pousser les parents à monter également au château.
Lorsque on a évoqué tout à l'heure les différents rendez-vous, il y a cette pétanque sur table. Alors ça peut paraître très éloigné finalement du patrimoine et de l'histoire, mais comme on a la chance d'avoir un docteur en histoire autour de la table, on va lui poser la question. Gilles Martinez, les jeux de balles, les jeux de boules comme ça, c'est quand même beaucoup plus ancien. On pense toujours que au Moyen-Âge ou même au cours de l'histoire récente de l'humanité, on ne s'amusait pas et les sports et les jeux sont arrivés tard. Alors on parle bien sûr du jeu de pommes que tout le monde connaît, mais bien avant cela, depuis l'aube de l'humanité, l'humain a joué. L'humain a inventé des choses avec des boules, avec des arcs, avec tout ce qui lui tombait sous la main finalement.
Exactement, on a des traces déjà dans l'Antiquité en fait de jeux de balles. Vous l'avez dit, le plus célèbre, c'est celui qui va devenir le comme l'escrime d'ailleurs, le sport des rois, enfin un des sports des rois, c'est le jeu de pommes. On a la chance, pas très loin d'ici, au château de Suze, Larousse, d'avoir conservé un jeu de pommes quasi complet. Enfin, il manque la toiture, mais on a une salle de jeu de pommes. C'est quand même assez rare d'avoir ce genre de lieu conservé. Et donc oui, on joue aussi. Alors, on met sous le terme de jeu beaucoup d'appellations, y compris les jeux de réflexion, les échecs, par exemple, le tric-trac. Ça fait partie au Moyen-Âge des jeux. Et même d'une manière générale, quand on pratique l'escrime et parfois en compétition, on a ce terme de jeu qui revient. On voit ça comme un moyen de se détendre, de délassement. C'est le terme des fois qui revient aussi dans les sources. Et aussi un moyen d'apprentissage. On couple les deux dans les textes. Le jeu, c'est à la fois l'outil pédagogique et l'outil d'amusement.
Et donc avec une évolution de tous ces jeux et la pétanque sur table à découvrir aussi lors de cette journée du 28 septembre. Avant de se quitter, Enzo Roux, le prochain podcast s'annonce tout aussi passionnant, n'est-ce pas ?
Exactement, fête de la science oblige, on retourne un petit peu en arrière. Rappelez-vous, le premier événement 2025, on était à Tournon pour l'année Seguin, le lancement de l'exposition autour de Marc Seguin et des ponts suspendus. Et bah, pour clore cet événement, on termine en se rendant chez Marc Seguin directement à Annonay, dans le domaine de Varennes, là où il a vécu, là où il a expérimenté beaucoup de choses et là où ses descendants ont également testé beaucoup de choses au fur et à mesure des pièces, des ateliers d'art, des ateliers techniques, des ateliers autour des ponts suspendus. Beaucoup de choses à découvrir sur cette date. On sera le 19 octobre 2025 pour cette journée-là avec conférences, déambulation botanique, pique-nique dans le parc, un très très beau domaine à découvrir avec beaucoup de trésors encore méconnus.
Et la boucle sera bouclée.
Exactement.
En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir été autour de cette table. Anne-Dominique Blanc pour la mairie et la commune de Rochemort, Gilles Martinez pour l'Académie des arts martiaux historiques de Rochemort, Pauline Guillemin pour l'Office de tourisme Porte Sud Ardèche, et puis bien sûr Aude Poinceau qui est avec nous en début d'émission pour les archives départementales de l'Ardèche, ainsi que vous, Enzo Roux. Moi, j'invite les auditeurs et les auditrices à se ruer sur le château de Rochemort. Ce sera ce 28 septembre de 11h à 17h avec ces pratiques sportives d'antan et d'aujourd'hui, tous ces rendez-vous qu'on a évoqués dans cette émission, et puis bien sûr les visites guidées, certes flash mais ô combien instructives sur ce patrimoine ardéchois. Merci d'avoir été autour de la table et puis on vous souhaite une très très belle journée pour ce 28 septembre.
Merci Vincent.
Merci à tous.